Salut à tous, bienvenue sur Alternante FM depuis la classe des CE1 des Buzardières à Saint-Herblain où l'on enregistre la dernière émission de l'année inscrite dans le parcours artistique et culturel de la ville. Ville donc de Saint-Herblain que la classe d'Ingrid a traversée à travers différents points de vue. L'urbanisation, la mairie et aujourd'hui on l'éclaire à travers son environnement et sa biodiversité. L'invité du jour de nos élèves est Françoise Nissen de la Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique. Bonjour et bienvenue Françoise.
Merci, bonjour à tous.
Et avant de laisser place à la première partie de l'interview, je laisse Ingrid nous dire un petit mot. Ingrid, la professeure des CE1.
Bonjour. Donc aujourd'hui est un jour particulier pour notre classe puisqu'il nous avons perdu un élève qui est parti à l'étranger vivre. Voilà, donc nous avons tous une petite pensée pour cet élève que j'ai eu le plaisir d'accompagner pendant 2 années en CP et en CE1. Donc, coucou Elias, on pense fort à toi. Et par ailleurs, je tenais à remercier également Salima et Julien pour leur accompagnement durant ces 4 émissions, voilà, qui nous ont apporté énormément de choses. Merci à vous.
Un grand merci également à vous, remerciement qu'on aura l'occasion de faire à la fin de cette émission. Alors, on fait place maintenant à l'interview de Françoise Nissen avec Mila, David, Tino, Warda et Paul. Et c'est donc Mila qui attaque.
Que veut dire LPO ?
Alors, LPO, c'est L pour la Ligue, P pour la protection et oiseau, donc O comme oiseau. En fait, cette association a été créée en 1912, donc elle est déjà très ancienne, parce qu'on s'était aperçu sur une des 7 îles qu'il y avait une espèce de petit oiseau qui était terriblement chassé. Et en fait, même pas pour les manger, c'était juste pour le plaisir de les tuer. Donc il y a des gens qui ont dit non, mais c'est pas possible, ils vont tous disparaître. Donc ils ont fait une réserve et ils ont créé une association qui s'appelle la Ligue pour la protection des oiseaux, pour protéger ces oiseaux. Et après, on s'est mis à protéger d'autres espèces d'oiseaux et ensuite aussi tous les animaux, puisqu'on s'aperçoit que tous les oiseaux interfèrent avec les autres animaux, tout ça, de la biodiversité, c'est un grand ensemble et il faut tout protéger pour protéger même le tout petit oiseau.
Que faites-vous au niveau de votre association ?
Alors, je participe à des sorties, je tiens quelquefois des stands sur des fêtes, par exemple la fête des plantes, des choses comme ça, il y a des stands pour faire connaître la LPO. Donc je peux faire ça. Je fais aussi transporteur pour les animaux blessés. Donc si quelqu'un appelle la LPO pour dire qu'il y a un animal blessé à emmener au centre de sauvegarde de la faune sauvage, je peux faire le transporteur. Et puis je fais aussi attention à ce que je fais dans mon jardin pour favoriser la vie des oiseaux et surtout pas leur abîmer leur environnement.
Que faites-vous au niveau de Saint-Herblain ?
Au niveau de Saint-Herblain, il y a pas mal de choses qui sont faites, et également par la mairie qui a institué tout un cycle à la longère de la baie Grésière. Donc il y a des promenades qui sont organisées, il y a aussi des ateliers nichoirs, il y a des choses comme ça. Et puis la LPO, de toute façon, est attentive à tout le département, toute la France. Enfin, c'est un truc qui n'est pas seulement sur Saint-Herblain. Donc à Saint-Herblain, il s'occupe également de surveiller qu'on ne déniche pas les oiseaux, par exemple qu'on ne détruise pas les nids d'hirondelles quand on refait les façades des maisons. Ensuite, il y a des comptages aussi, c'est-à-dire qu'on vérifie le nombre d'oiseaux qu'on peut entendre, voir à tel ou tel endroit pour voir si les effectifs, si leur population va bien ou si on peut faire quelque chose pour eux. On fait attention aussi à ce que les gens ne taillent pas trop les haies à des mauvaises périodes, que la ville fasse attention à laisser de l'herbe un peu. Voilà, et puis si jamais il y a un vrai problème, la LPO va aller éventuellement porter plainte pour que la loi soit appliquée et que les oiseaux ne soient pas menacés.
David ?
Qu'y a-t-il comme oiseau à Saint-Herblain ?
À Saint-Herblain, vous devez avoir au moins une centaine d'espèces d'oiseaux, j'imagine, parce que vous avez la Loire qui est tout près, vous avez des zones humides et vous avez aussi tous les jardins, tous les parcs, donc toutes sortes d'oiseaux. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis sûre que vous en connaissez plein. Est-ce que quelqu'un connaît des oiseaux ? Ceux qui ont des micros ?
Mila ?
Des pies ?
Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Des moineaux ?
Oui.
Paul ?
Des mésanges.
Oui, des mésanges. Toutes sortes de mésanges. Il y a des mésanges charbonnières, des mésanges huppées, des mésanges bleus, des mésanges noirs, des mésanges nonnettes, des mésanges à longue queue.
Des pies verts.
Oui, des pivers. On l'entend bien, le piver. Tu sais, c'est celui qui part en riant, il fait ha ha ha, comme ça. Et il y en a beaucoup dans les bois.
Mila encore ?
Des rouges-gorges.
Oui, des rouges-gorges. Et puis des oiseaux plus sur la Loire, qu'on voit au bord de l'eau. Paul ?
Des martins-pêcheurs.
Oui, des martins-pêcheurs. C'est très joli, le martin-pêcheur. Vous voyez, vous connaissez plein d'oiseaux. Je suis sûre que si on faisait le tour, vraiment, vous en trouveriez, rien qu'à vous, vous en trouveriez au moins 30, 35. Donc, je ne peux pas faire le tour de tout ce qu'il y a. Et vous avez la chance ici donc d'avoir un énorme parc qui va de nord de Saint-Herblain jusqu'à la Loire, ce qui permet à toute une population d'oiseaux de bien se développer. Donc, il y a les petits oiseaux des jardins, tout petits, qu'on voit à peine. Ensuite, vous avez les oiseaux des marais, des gros hérons, des choses comme ça. Après, pas loin, dans le marais, il y a des cigognes. Et puis, vous avez aussi les oiseaux comme les goélands et les mouettes qui reviennent un peu de la mer sur la Loire. Donc, il y a une population d'oiseaux absolument incroyable.
Donc, il y a d'autres variétés d'oiseaux ?
Le pinson des arbres.
Le pinson des arbres, oui, on en entend ici dans la cour.
Des corbeaux.
Les corbeaux, les corneilles, oui.
Des pigeons.
Des pigeons. Il y a deux sortes de pigeons, tu sais. Il y a le pigeon biset de la ville, donc le pigeon un peu normal, et le pigeon beaucoup plus grassouillé, là, avec un bec jaune, et celui-là, il est très végétarien.
Et on termine avec Iliès.
Le pigeon blanc.
Oui, les colombes blanches.
Alors, David, si tu veux poursuivre avec tes questions.
Est-ce qu'il y a des oiseaux de mer, des oiseaux de la Loire, des oiseaux des marais ?
Oui, ben on a un peu répondu. En fait, Saint-Herblain, effectivement, est très étendu et présente plein de surfaces différentes. Donc, vous avez la chance d'avoir effectivement tous les oiseaux des jardins, les oiseaux des parcs. Le pivert, par exemple, a besoin de grands arbres. Donc là, c'est le cas à Saint-Herblain. Et les oiseaux de mer, ils reviennent par la Loire. Et donc, oui, effectivement, vous en trouvez sur les berges de la Loire. Ils peuvent remonter quand il y a beaucoup de vent. Et vous en trouvez un peu partout. Donc, oui, il y a une grande, grande variété. Tino ?
Est-ce qu'il y a des oiseaux migrateurs à Saint-Herblain ?
Oui, il y a plein d'oiseaux migrateurs. Alors, il y a ceux qui viennent que l'été, ceux qui viennent que l'hiver, et ceux qui passent seulement pendant les migrations. Donc là, par exemple, au-dessus, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des hirondelles. Les hirondelles, ce sont des migratrices. Elles vont passer l'hiver en Afrique. C'est un tout petit oiseau qui revient toujours au même endroit. Mais l'hiver, il va se nourrir en Afrique. Des oiseaux migrateurs, il y a aussi les martinets. Peut-être vous connaissez les martinets ? Les oiseaux noirs, tout noirs, un peu en forme de faucille, qui volent très vite et qui ne s'arrêtent jamais, qui volent toujours, toujours. Des oiseaux migrateurs, il y a aussi le coucou. Tout le monde connaît le coucou ? Le coucou. Alors le coucou, il arrive au printemps et il repart à la fin de l'été. Voilà. Ensuite, l'hiver, c'est le contraire. L'hiver, on a des oiseaux qui viennent du nord parce qu'il fait trop froid chez eux et ils descendent s'abriter ici. Donc on a les pinsons du nord, c'est normal, les tarins des aulnes, des petits oiseaux comme ça. On a aussi plus de buses parce que les buses fuient un peu, surtout les buses du nord-nord-est. Elles arrivent par ici parce qu'il fait meilleur, il y a plus de souris à manger. C'est plus facile, il y a moins de neige. Donc elles viennent s'installer ici pour l'hiver et puis elles repartent.
Iliès.
Pourquoi les oiseaux sont les ancêtres des dinosaures et pas les crocodiles et les lézards ?
Alors c'est pas les oiseaux qui sont les ancêtres. Certains dinosaures sont les ancêtres des dinosaures. Ben, en fait, on croit penser que les dinosaures qui volaient, donc les oiseaux, les ancêtres des oiseaux, ont survécu à l'extinction et que tous les autres sont morts. Donc, il n'est resté qu'eux. Donc, en fait, les oiseaux ont gardé du dinosaure les pattes, où il y a des espèces d'écailles, on voit sur les pattes des oiseaux, très écaillées. Voilà, on pense que c'est ça. C'est parce qu'ils volaient qu'ils ont été sauvés.
Warda ?
Est-ce que les oiseaux de mer, des marais, savent nager ?
Alors, est-ce qu'ils savent nager ? Certains, on pourrait presque penser qu'ils nagent, genre les pingouins. Quand ils plongent très vite, ils arrivent avec leurs petites ailes qui ne sont plus des vraies ailes, ils arrivent un peu à nager. Après, les autres, les mouettes et les canards, par exemple, ils ne nagent pas vraiment. En fait, ils se posent et puis ils utilisent leurs pattes comme des palmes. Voilà. Ils utilisent leurs pattes et ils se déplacent à la surface de l'eau. Mais ils ne nagent pas vraiment, ils restent plus à la surface de l'eau. Il y a même plein d'oiseaux qui attrapent les poissons seulement à la surface de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de plonger vraiment, ils attendent de trouver un banc de poissons et ils attrapent à la surface. Donc, ils nagent même pas. Le martin pêcheur même, que quelqu'un a cité tout à l'heure, qui est ce très joli oiseau qu'on trouve plutôt sur les rivières, il plonge, mais en fait, quand il est sous l'eau, il bouge presque pas. On ne va pas dire qu'il nage. Il plonge et sur l'élan, il attrape le poisson et il ressort. Donc, ils ne savent pas vraiment nager, à part les pingouins, les manchots qui nagent un peu plus.
Ingrid.
Il y a un oiseau de mer, je ne sais plus comment il s'appelle, qui plonge en fait. Il a un long bec et il plonge pour aller chercher des poissons au fond de l'eau.
Oui, ils plongent. Il y en a qui plongent très très loin, effectivement. Mais de là à dire qu'ils nagent, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils font pas de mouvement beaucoup avec leurs ailes, quoi. Ils sont, c'est vraiment sur l'élan. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très fuselés, ces oiseaux, en général. Ils mettent leurs ailes le long du corps pour aller plus vite, pour l'hydrodynamisme, du coup. Ils plongent et sur l'élan, ils ramassent les poissons. Mais bon, ils se dirigent, ils ont pas intérêt à mouiller trop leurs ailes. Donc, en fait, ils gardent les ailes plutôt le long du corps. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils nagent pas vraiment, mais ils plongent très bien, ouais. Effectivement.
Comment ça s'appelle,
je sais pas, il y en a beaucoup qui nagent, hein, qui plongent. D'accord. Les cormorans plongent, par exemple, assez profondément. Mais même les oiseaux, les frégates, les fous et ces choses-là, les grands oiseaux de mer qui ne vivent qu'en mer, qu'on voit très peu, justement, plongent très bien. Oui, oui. Paul.
Y a-t-il des différences entre les oiseaux de jardin, les oiseaux de marais?
Oui, alors il y a des différences, tout en étant des oiseaux, donc qui ont effectivement des ailes, des becs, des pattes, qui se comportent un peu pareil, ils se sont adaptés. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont manger plutôt des insectes, d'autres qui vont manger plutôt par terre, des graines, des vers de terre, comme le merle par exemple. Et il y a ceux qui vont ramasser des poissons, des grenouilles, comme les cigognes, des choses comme ça. Donc les différences, je ne sais pas de quelles différences tu parlais plutôt ? Des différences de comportement ou des différences...
Les différences d'oiseaux.
Bah, des différences d'oiseaux, il y en a beaucoup. Parce que le colibri, par exemple, il fait 5 cm. Quand tu vois une autruche, elle mesure pas loin de... Le colibri, c'est un tout petit oiseau. Il a un tout petit bec très très pointu et il mange le nectar des fleurs. Donc, il n'y en a pas en France, il ne fait pas assez chaud. Mais c'est vraiment le plus petit oiseau du monde. Et le plus gros, c'est le condor qui mesure 3,20 m d'envergure. 3,20 m, c'est bien plus large que ton canapé. Enfin, c'est énorme. Donc, on peut dire que c'est des différences. Mais ça reste des oiseaux, dans le sens où c'est la même famille. Ils ont des ailes, un bec et ils pondent des œufs. Ingrid ?
Est-ce que leur différence, est-ce que leur morphologie s'adapte à leur type de nourriture, à leur environnement, au niveau des pattes, des becs
Ah oui, 100%. C'est-à-dire qu'en fait, les oiseaux qui ont survécu à l'évolution, c'est parce qu'ils se sont adaptés à leur milieu. Donc, leur milieu est absolument favorable pour un type de comportement. Par exemple, l'autruche... Elle sait très très bien courir, donc c'est son système de défense. Elle est très puissante, elle est capable d'assommer n'importe quoi avec ses grosses pattes, mais elle n'a pas besoin de voler, donc elle a arrêté de voler, quoi. Et puis il y a des, par exemple en Nouvelle-Zélande, qui est un pays qui était isolé pendant très longtemps où il n'y avait aucun prédateur terrestre, les oiseaux, certains oiseaux ne savent plus voler. Certains perroquets ne volent pas du tout. Les kiwis, tout le monde connaît les kiwis. Ah, voilà, le kiwi c'est un oiseau qui ne vole pas. Il reste par terre, il se déplace la nuit et il vole pas du tout. Donc l'oiseau s'est complètement adapté. Les pingouins, les manchots, eux, ils se sont adaptés en ayant un corps... les plumes sont beaucoup plus courtes pour que ce soit beaucoup plus fluide dans l'eau et qu'ils puissent quasiment nager. Ils pourraient pas nager avec des grosses plumes, avec des gros duvets, par exemple. Et puis aussi, les oiseaux s'adaptent à leur habitat. Par exemple, ici, en Loire-Atlantique, on verra pas de vautours. Parce que les vautours ont besoin que de montagnes, ou au moins de grosses, moyennes collines, parce qu'ils utilisent les courants d'air chaud pour monter. Ils ont absolument besoin de ça. Ils sont beaucoup trop lourds. Ils ne pourraient pas monter en altitude juste à la puissance des ailes. Ce serait beaucoup trop puissant. C'est énorme, un vautour. Et donc, ici, ils ne peuvent pas. Il n'y a aucun courant ascendant parce qu'il n'y a pas de montagne. Donc, il n'y a pas de vautours. Donc, ils restent cantonnés à certains milieux. Donc, effectivement, il y a une adaptation inouïe entre le milieu... Donc l'environnement, l'habitat et la nourriture et l'oiseau.
Iliès avait une nouvelle question.
Mais je connais les cigognes. Eux, ils vivent sur les toits ou les panneaux et les longs bâtons électriques. Et j'ai appris qu'ils partaient l'hiver et ils revenaient le printemps.
Oui, c'est ça. Les cigognes, Alors, initialement, elles habitaient surtout sur les cheminées, puisqu'on n'avait pas pensé à leur mettre des plateformes sur les pylônes. Mais quand on s'est rendu compte qu'elles s'installaient un peu sur les pylônes, on a essayé de leur installer des plateformes à côté pour moins déranger l'électricité. Mais elles adorent les pylônes. Ça, bon. Et elles font des gros nids avec des tas de morceaux de bois. Et ce sont des oiseaux qui migrent beaucoup, effectivement, mais... Depuis un certain temps, ils migrent moins. Alors, un peu le réchauffement climatique, un peu que certains font le pari de se dire « Oh, c'est trop fatigant de faire le voyage, je vais rester là, je trouverai bien à manger. » Mais c'est sûr que quand il y a un hiver un peu rigoureux, s'il faisait très très froid, beaucoup de neige et que les marais soient gelés, par exemple, les cigognes auraient du mal à se nourrir et donc ce serait un mauvais pari. C'est-à-dire que cet hiver-là, il pourrait y avoir beaucoup de décès chez les cigognes. Mais bon, elles essayent.
Maxime ?
Y a-t-il beaucoup de races très rapides d'oiseaux ?
Rapide, oui. Le plus rapide, tu sais qui c'est ? C'est le faucon pèlerin. Le faucon pèlerin, il est pas loin de 300 km/h quand il est en piqué. Donc en fait, son truc, c'est de plonger en piqué. Donc il replie les ailes complètement. C'est pas très radiophonique. Il replie les ailes, il plonge comme un fou. Et là, hop, il attrape l'oiseau en plein vol. Et bon, c'est pas très sympa, mais il le décapite en plein vol. C'est-à-dire, d'une patte, il lui arrache la tête. Bon, l'oiseau souffre pas, hein, il n'a pas le temps, là, et il n'a pas le temps de voir. Donc, le faucon pèlerin aime beaucoup, beaucoup manger des pigeons, surtout quand il a des petits au nid. Donc là, c'est des jours où il peut trouver 3 pigeons par jour pour les ramener à ses petits. Voilà, c'est l'oiseau le plus rapide. Warda.
Qui élève les oiseaux, les papas et les mamans, ou juste la maman?
Ça dépend des oiseaux. C'est un peu compliqué. Donc très souvent, c'est la mère qui couve, c'est-à-dire qu'elle pond les œufs et elle les couve. Et pendant ce temps-là, le mâle, le papa, donc lui ramène à manger. C'est-à-dire il la nourrit comme si elle était un bébé, puisqu'elle sort très peu, parce qu'il faut tenir les œufs bien au chaud, sans interruption de la chaleur. Donc elle reste au nid un certain temps, le temps que ça éclose. Mais après, souvent, les deux parents nourrissent. Ils font des allers-retours et ils nourrissent au nid. Là, je te parle des petits oiseaux des jardins. Hein. Et les oiseaux de mer, c'est un peu pareil. Après, bon, pour les manchots empereurs, vous connaissez tous, c'est un peu spécial. Hein. C'est la mère qui va chasser et qui revient avec plein de nourriture pendant que le papa protège le petit. Mais sinon, en gros, les deux parents nourrissent. Par contre, chez les rapaces, ce qui est rigolo, c'est que c'est la femelle qui distribue la nourriture. C'est-à-dire le père revient avec une proie, qui peut être un lapin, une souris, un hérisson, un oiseau, un peu ce qu'il y a, ça dépend du rapace. Le père donne la nourriture à la femelle, qui lui arrache quelquefois pas très gentiment. Et c'est elle qui découpe les petits morceaux pour les petits. Le papa, il n'a pas le droit. Moi, bon, c'est comme ça.
Qu'il y a différentes sortes de nids.
Différentes sortes de nids, oui, autant de sortes de nids qu'il y a de sortes d'oiseaux. Donc, c'est très difficile d'en parler. Donc, il y a des oiseaux aussi qui acceptent, vous avez peut-être remarqué, d'aller dans des nichoirs qu'on leur a fabriqués. Donc, on peut leur fabriquer des boîtes, ils y vont. Donc, les mésanges adorent ça, par exemple. Éventuellement, les rouges-gorges, les moineaux, c'est un peu des paresseux aussi. Mais il y a d'autres oiseaux qui construisent leur grand nid eux-mêmes. Par exemple, la cigogne, elle se débrouille toute seule. Le merle, il ne viendra jamais dans un nichoir. Il construit un très joli nid, bien rond. Il y a des oiseaux qui construisent des nids un peu en forme de corbeille avec la tête en bas, enfin, c'est assez spécial. Il y en a d'autres qui n'ont quasiment pas de nid. Les oiseaux de mer, ils posent les œufs directement sur les galets. Et souvent, l'œuf ressemble vraiment à un gros galet, donc en fait, on ne les voit pas bien. Et les petits poussins, quand ils naissent, ils ressemblent vraiment aussi à un caillou, c'est-à-dire un petit peu gris, beige, avec des petites mouchetures, on ne les voit pas trop. Mais on ne peut pas dire qu'ils fassent des nids, hein, c'est des gros paresseux. Et puis, il y a d'autres oiseaux qui ne peuvent pas faire de nid. Par exemple, les martinets, on en parlait tout à l'heure. Donc, le martinet, c'est un oiseau qui vole tout le temps. Donc, il ne se pose pas. Donc, il ne peut pas ramasser par terre des herbes, des branches, des choses comme ça. Donc, il se met dans un trou, sous un toit en général. Et là, il ramasse des plumes qu'il trouve en vol, des choses qui volent, des petites pailles, des choses comme ça. Et il pose ça en vrac. Et voilà. Mais c'est pas un super nid, hein. C'est pas de la belle ouvrage. Par contre, le colibri, le tout petit colibri, il fait un tout petit nid qui fait une demi-balle de golf. Tout petit, petit, petit. Et il met beaucoup de toiles d'araignée dedans. Et alors, on s'est aperçu que c'est très important, les toiles d'araignée, parce que c'est élastique. Et donc, en fait, quand les petits grossissent, le nid grossit un petit peu avec les petits. Ça permet qu'ils soient pas complètement écrabouillés. Voilà. Tous les nids sont différents.
Alors, on va s'écouter un petit morceau de musique. Iliès, qu'est-ce qu'on écoute?
Chanson, je veux apprendre.
Je
On est de retour dans la classe des CE1 des Buzardières de Saint-Herblain qui ont pour invité Françoise Nissen, qui est bénévole à la Ligue pour la protection des oiseaux en Loire-Atlantique. Et avant de reprendre l'interview avec Julia, Valentin, Paul, Clémence, Cristal, on va écouter Zaki et Bilal qui nous parlent de notre ville dans 100 ans.
Dans 100 ans, on aimerait que les maisons soient dans les arbres, qu'il y ait plus de parcs avec des montagnes russes, des tyroliennes, des circuits de karting, qu'il y ait des licornes apprivoisées, que tout soit gratuit, qu'il y ait des forêts de cookies, qu'il y ait des ponts de singes qu'on fabrique avec des lianes et des planches de bois.
Qu'on ait un rôle de compagnie. Qu'il y ait des jeux vidéo au parc, qu'il y ait une ferme dans la ville avec un chemin tout autour de l'enclos pour pouvoir admirer les animaux, qu'il y ait plus d'animaux qu'on puisse caresser librement, que l'école commence à 12h30, qu'il y ait des Pikachu, que les voitures soient remplacées par des chevaux, que les voitures volent, que les insectes deviennent géants, qu'il y ait plus d'activités à la place de l'école, qu'il y ait des tentes pour qu'on puisse dormir avec tous nos copains, qu'il y ait plus de piscines dehors, qu'on puisse y aller librement avec des transats et des parasols et des conseils, qu'on puisse monter des oiseaux pour voler.
Eh bien vivement, hein. Mais par contre, il faut attendre 100 ans, hein. Ça fait un peu long. Donc c'était donc Zaki et Bilal. On passe à la deuxième partie de l'interview donc avec Françoise Nissen. Et Françoise, je vous laisse avec Julia.
Est-ce que les oiseaux communiquent entre eux ?
Oui, les oiseaux communiquent entre eux, alors surtout à l'intérieur de la même espèce. C'est-à-dire que, par exemple, le rouge-gorge, tout le monde connaît le rouge-gorge. Le rouge-gorge, il va s'installer autour de son territoire et chanter très, très, très fort pour dire « Ici, c'est chez moi, ici, c'est chez moi, ici, c'est chez moi, ici, c'est chez moi, et les autres, vous venez pas. » Mais ça dérange pas les autres oiseaux, ça dérange pas les mères, ça dérange pas les moineaux. Il y a que les rouge-gorges qui sont concernés par le chant du rouge-gorge. Et c'est un peu pareil pour les autres. Le merle va marquer son territoire de la même façon en chantant. Parce que les oiseaux ne chantent pas pour nous faire plaisir, hein. Je ne sais pas si vous le croyez avant, mais non. En fait, non, c'est dommage, mais ce n'est pas pour ça. Ils chantent pour marquer leur territoire et ils chantent pour attirer une femelle aussi, pour se reproduire, ce qui est très important chez tous les animaux. Et donc, les oiseaux communiquent entre eux, donc principalement interespèces. Ils communiquent avec leurs petits aussi. Ils les appellent, ils leur répondent. Les petits appellent leurs parents quand ils ont faim. Et aussi, il y a quand même un truc spécial qui communique, tous les oiseaux communiquent un peu de la même façon. Quand il y a un cri d'alerte, par exemple un merle qui voit un chat, il va pousser un cri particulier. Et là, à ce moment-là, tous les oiseaux comprennent. Là, c'est vraiment le cri d'alarme de n'importe quelle espèce est compris par toutes les autres espèces. Et par contre, quand il y a un épervier qui arrive, c'est le contraire, on ne crie pas, on se tait. On se cache et on se tait. Et ça, c'est vraiment c'est un truc qu'on remarque tout le temps. Donc, il y a une communication, oui.
Alors, justement, Valentin, rapport au chat notamment, avait une question dans ce sens-là. Valentin ?
Comment faire pour protéger les oiseaux des chats ?
Avoir moins de chats, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Les chats consomment énormément d'oiseaux par an, hein. On est à 75 millions en France d'oiseaux tués par les chats. Et on ne parle pas des nichés, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand un chat tue un des parents et qu'il y avait des petits au nid, les petits vont mourir. Donc c'est assez énorme. Alors ce qu'on peut faire, c'est leur mettre un collier de couleur arc-en-ciel, parce que les oiseaux voient très bien tout ce qui est couleur arc-en-ciel, ça bouge et ça les alerte très bien. On peut aussi, quand on a un jardin et qu'on sait qu'on a des petits oisillons qui sortent du nid tout juste et qui ne sont pas très dégourdis, on peut garder son chat à la maison 3-4 jours. Ça peut être une bonne solution. Et puis aussi, surtout, penser à ne pas en avoir 5 ou 6, et puis penser à les stériliser. Voilà.
Paul ?
Est-ce qu'il y a des relation d'amitié entre les hommes et les oiseaux ?
C'est une question que je ne connais pas à fond. Alors, des relations de dépendance, oui. C'est-à-dire qu'un oiseau qu'on va nourrir régulièrement, bien sûr, il va te connaître. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amitié ? Je ne suis pas tout à fait sûre. Peut-être avec certains grands corvidés, les corbeaux, les corneilles, qui sont très intelligents. On peut à force établir un lien, mais il faudrait, dans ce cas-là, il faut le garder avec soi et il n'est pas en liberté. un lien d'amitié avec un oiseau qui serait vraiment en liberté, je ne crois pas vraiment. Même les faucons, les gens qui ont des faucons, qui les lâchent, c'est plus un lien de dépendance. C'est-à-dire que le faucon revient parce qu'il est nourri. Je ne suis pas sûre que ce soit, qu'il soit super copain avec son maître.
On trouve un oiseau blessé, que faut-il faire ?
Alors, si on trouve un oiseau qui est vraiment blessé, parce que quelquefois, on croit que les oiseaux sont un peu abandonnés, ce sont juste des petits qui sortent du nid, les parents sont pas loin, il faut pas y toucher. Par contre, si on est sûr qu'il est blessé, il faut essayer de l'attraper, alors surtout sans lui faire de mal. Donc, le gros système, c'est de lui jeter un tissu sur la tête, un tissu pas trop léger. On l'attrape, on le met dans un carton. On le garde au chaud, on le garde au calme, on le montre pas à tous ses copains. Surtout, ça c'est très très mauvais le stress pour les oiseaux. Il y en a qui peuvent être cardiaques, ça arrive. Hein. Et ensuite, on appelle le centre vétérinaire de la faune sauvage qui se trouve à l'Oniris et qui pourra prendre en charge un oiseau blessé. Alors quand c'est un tout petit oiseau, c'est très difficile de l'opérer, de le soigner. Mais par contre, si c'est un oiseau un peu gros, surtout un rapace, on peut faire des opérations. On leur met des broches, on leur répare les fractures. On peut même les relâcher avec des broches en plastique comme on a, nous, des broches très très légères. Et l'oiseau peut reprendre sa vie normale. Donc voilà la bonne réaction.
Clémence.
Est-ce qu'on peut observer les oiseaux? Si oui, où et comment?
On peut partout observer les oiseaux. Rien qu'ici, dans votre joli cour avec tous ces haies et tout, je suis sûre qu'il y a des oiseaux qui nichent. On entend les pinsons, on voit passer les hirondelles. Donc déjà, en étant attentif aux chants qu'on entend, en étant un peu observateur, on peut en voir partout. Sinon, il y a des endroits plus faciles pour les observer. Alors quand on ne connaît pas beaucoup, les oiseaux très faciles à observer, c'est les oiseaux qui sont au bord des marais ou au bord de la mer. Donc ça, on appelle... parce qu'ils cherchent leur nourriture dans la vase, ils se déplacent à pied, donc c'est assez facile à observer, ils ne volent pas dans tous les sens. Donc c'est un bon début pour commencer. Et puis après, observer, tu peux sortir, il y a des sorties avec la LPO qui sont gratuites, il faut s'inscrire un peu en avance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est organisé très souvent le dimanche matin. Et voilà, ça peut être une bonne solution pour commencer.
Christelle ?
Est-ce qu'il y a des oiseaux à protéger ?
Tous ? Oui, alors il y en a qui sont particulièrement protégés parce qu'ils sont très menacés. Même les moineaux sont en voie d'extinction. On perd beaucoup, beaucoup de moineaux. Tous les ans, il y en a de moins en moins. Alors l'explication principale, il y a deux causes principales. Il y a la destruction de leur habitat, des endroits où ils habitent. C'est-à-dire que souvent, les moineaux, ils nichent dans les trous dans les maisons. Et là, comme on veut que tout soit propre, tout soit bien refait et tout ça, on rebouche tous les trous. Et les moineaux, ils n'ont plus de nid. Donc, ils sont bien embêtés. Et bon, ça, c'est un grave problème. C'est valable pour les moineaux, les martinets, les étourneaux qui nichent beaucoup dans les trous. Donc ça, c'est un grave problème. En plus, maintenant, les bâtiments qu'on fait, ils sont très lisses, très fermés. Il n'y a pas du tout de trous. Même le toit, il n'est pas avec des tuiles. On ne peut pas se cacher en dessous, comme adorent faire certains oiseaux. Donc il y a la destruction de leur habitat. On enlève beaucoup de haies aussi dans les champs pour faire des grands champs au lieu de faire des petits champs avec des haies autour. Donc ça, c'est très, très mauvais pour les oiseaux de ne plus avoir d'arbres un peu partout. Et puis aussi, on détruit beaucoup leur nourriture, les insectes, parce qu'on utilise beaucoup trop de pesticides un peu partout. Donc pour les protéger, il faut arrêter tout ça, évidemment. Et sinon, voilà, tous les oiseaux sont à protéger. Il n'y a pas d'oiseaux qui soient en surnombre. Hein. De toute façon, ça s'équilibre. Donc je ne saurais pas dire lequel il faut protéger le plus. Il faut tous les protéger.
Bilal ?
Comment fait-on pour devenir le maître d'un oiseau ?
Eh ben moi, je préférais que tu ne deviennes pas le maître d'un oiseau qui doit vivre dans la nature, parce que les oiseaux de la nature doivent rester dans la nature. Moi, c'est ce que je pense. Alors, je ne vais pas t'expliquer comment on fait.
Ilias avait encore une question.
Donc, mais est-ce que vous protégez les animaux, les oiseaux tropicaux des forêts amazoniennes?
Alors, il y a des ligues pour la protection des oiseaux qui ne s'appellent pas comme ça, hein, qui s'appellent autrement dans d'autres pays et qui protègent effectivement. Donc, il y a des tas de pays où on protège les oiseaux, chacun à sa place, parce que c'est plus facile de protéger quand on est sur place. Mais oui, t'inquiète pas.
Julia.
Est-ce que vous avez des projets?
Oui, je suppose qu'il faut garder encore plus de végétation, bien entretenir toute la biodiversité dans les parcs. Alors, ce qui est très bien, par exemple, dans les parcs, vous avez sûrement remarqué, il y a des endroits où on peut pas aller. Il y a des petites haies en bois et on laisse pousser l'herbe et on n'a pas le droit d'y aller, même les chiens. Alors surtout, faites attention quand vous avez des chiens et que c'est interdit de lâcher son chien. C'est très important. Les chiens, même s'ils n'attrapent pas les oiseaux, ils font peur aux oiseaux. Et les oiseaux peuvent abandonner leur nid et voilà. Et tous les petits vont mourir. Donc, faut faire très attention quand on a un chien. Donc, ça, c'est un truc à respecter. Et dans Saint-Herblain, dans les grands parcs, ils font ça. Ils gardent vraiment des endroits très sauvages. Et ça, voilà, c'est un projet très intéressant. Et puis aussi, construire des nichoirs avec l'animation de la mairie, ce serait bien.
Zaki, ta question ?
Vu que vous êtes une organisation vieille, pourquoi vous ne demandez pas au gouvernement de faire des choses pour les oiseaux ?
Ben on leur demande, on n'arrête pas de leur demander. On signe des tas de pétitions, on proteste, on proteste contre certaines chasses, par exemple, parce que l'Europe, en Europe, il y a même pas une vingtaine d'espèces d'oiseaux qui sont chassées. En France, il y en a 64. Donc, on se bat beaucoup pour qu'il y ait des espèces qui ne soient plus chassables, parce qu'on considère qu'elles sont en danger. Genre les tourterelles des bois, les alouettes des champs. Alors, c'est bien mignon, ils continuent à les tuer, mais il n'y en a plus. Donc, là-dessus, on est assez volontaire.
Est-ce qu'il y a des oiseaux qui peuvent se perdre ?
Se perdre, oui. C'est un peu le même problème que, tu sais, certains dauphins qui s'échouent, des choses comme ça. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y en a effectivement. Il y a des oiseaux, par exemple, qui arrivent. On a quelques oiseaux isolés en Europe qui viennent d'Amérique, des espèces seulement américaines. Alors, on imagine qu'il y a eu des grands courants ascendants, des grands vents, et qu'ils ont été portés comme ça. Donc, c'est un peu bizarre. Oui, ils sont perdus. Mais bon, après, ils se débrouillent. Et puis aussi, tu as peut-être remarqué, à Saint-Herblain, il y en a des perruches vertes. Vous n'avez pas remarqué ? Il y a quelques perruches. Alors, ces perruches, ce sont des oiseaux qui se sont échappés de cages ou choses comme ça. Et c'est un des rares oiseaux qui arrive à s'acclimater. Donc, ils ont fait des colonies. Dans le sud de la France, il y a d'énormes colonies de perruches. Et puis, ça se répartit un petit peu partout. Et ici, à Saint-Herblain, il y en a une petite colonie.
Paul avait une nouvelle question.
Bonjour. On ne pourrait pas faire des endroits interdits où on fait exprès de conduire, de faire des murs avec plein de trous pour que les oiseaux, par exemple les hirondelles ou les moineaux, puissent bien s'abriter.
Oui, alors c'est une très très bonne idée et ça se fait. C'est-à-dire que maintenant on vend, il y a certaines constructions, alors surtout les constructions qui sont faites par des mairies, la LPO intervient et on peut introduire directement dans le mur des briques qui sont des nichoirs. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une brique ou un parpaing, il y a un creux dedans et c'est déjà prévu pour être un nichoir. Et on le fait, oui, oui. Alors la LPO se bat beaucoup pour que ça soit généralisé, évidemment. Mais c'est du travail, mais il faut y penser. Et c'est très intéressant ta question. Et la réponse est toute trouvée, mais il faut convaincre les gens de le faire. Ça coûte un petit peu d'argent, c'est plus compliqué à installer. L'année dernière, j'avais eu des gens qui avaient des travaux de couverture. Donc, ils avaient tout déniché leur toit. Il y avait des tas de nids de martinets. Donc, qui ont eu un problème, on les a sauvés apparemment quand même, mais ils ont été dénichés. Et du coup, ces gens-là se sont arrangés pour que le couvreur respecte les nouvelles cavités. C'est-à-dire que les trous, c'était plus les mêmes, mais ils avaient fait des trous exprès pour que les martinets puissent revenir. Voilà ce qu'on peut faire.
Alors, il y a beaucoup de questions, Françoise, ça passionne beaucoup. Donc, on va essayer de répondre encore à peu près trois questions pour ensuite rendre l'antenne. Maxime.
Justement, moi et mes parents, on va construire une maison, vu qu'on va déménager. Et du coup, peut-être qu'on pourra mettre des trous pour les oiseaux.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il faut qu'ils cherchent. Il y a des constructeurs qui proposent ça. Donc, ce sont des briques. Au lieu de mettre une brique ou un parpaing à un endroit prévu, on met une brique spéciale avec un trou. C'est très intéressant. Parle-en à tes parents.
Paul ?
Je connais les pigeonniers pour les pigeons.
Oui, il y a des pigeonniers pour les pigeons et il y a aussi des nids à hirondelles, des tours à hirondelles. Donc en fait, on construit une grande tour. Donc ça, Saint-Herblain pourrait le faire, hein, puisqu'il y a des hirondelles. Donc on fait une grande tour et on installe tout en haut un espèce de petit toit sous lequel on met des faux nids d'hirondelles. Et ça marche très très bien. En plus, les hirondelles adorent habiter en colonie. Donc c'est un système qui fonctionne très bien. C'est une bonne idée à proposer à la mairie.
Ingrid ? Par rapport aux rouges-gorges, en fait, tu disais que les rouges-gorges avaient besoin de trous. Elles faisaient des colonies sous les toits, c'est ça ?
Non, pas les rouges-gorges, non. C'est, les martinets.
Les martinets, d'accord. Et du coup, au niveau, enfin, il y a des choses qui se mettent en place justement pour permettre de que l'espèce perdure, enfin, qui retrouve des habitats.
Oui, oui. Sur la LPO, notamment, il n'y a pas que la LPO, mais surtout la LPO. Quand il y a des chantiers prévus, par exemple un bâtiment municipal qui va être refait ou même détruit et reconstruit, on intervient pour que l'habitat soit garanti sur le nouveau bâtiment, par exemple. Et ça marche assez bien, hein, ça marche assez bien.
J'avais encore une question. Tout à l'heure, tu parlais des chats stérilisés. Lorsqu'un chat est stérilisé, il est moins prédateur, en fait, qu'un chat non stérilisé.
Quelquefois, il grossit un peu. Donc oui, il est déjà moins malin pour courir après les oiseaux. Donc c'est un petit plus. Et puis surtout, il ne se reproduit pas. Et on ne va pas avoir derrière 10 chatons, 12 chatons, etc. C'est plus ça que c'était mon propos.
Pour conclure, la question de Clémence.
Est-ce que vous connaissez d'autres animaux qu'il y a à Saint-Herblain ?
Oui, mais vous en connaissez vous aussi, j'imagine. Alors, il y a sûrement, parce que vous avez une grande surface de parc, il y a forcément des renards, des putois, des fouines, des blaireaux, des hérissons, plein de hérissons. Des sangliers, il y a même des sangliers à Saint-Herblain, ça c'est sûr. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce que tu connais d'autre ? Des hermines, sûrement Oui, il y a plein d'animaux, avec toute cette surface de verdure que vous avez la chance d'avoir.
Bon, une toute dernière question de la part de Paul.
Pour les animaux, on pourrait faire un magasin au moins pour mettre des colliers avec des grelots sur leur collier pour que ça fasse plus de bruit, que les oiseaux puissent l'entendre et être avertis.
C'est une bonne idée. Alors, il y a beaucoup de propriétaires de chats qui ne veulent pas faire ça parce qu'ils ont peur que ça rende leur chat un peu fou. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée pour les oiseaux. Je t'encourage à acheter des grelots.
Eh bien, merci à tous. Françoise Nissen, merci beaucoup. Je pense que vous allez devoir rester encore trois bons quarts d'heure dans l'école pour continuer à répondre aux questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Est-ce qu'il y a un site internet pour la LPO ?
Oui, bien sûr, il y a la LPO 44. Donc, en plus, vous trouverez les sorties, les propositions de sortie. Donc, comme je disais, la plupart sont gratuites. Et donc, par contre, il faut s'inscrire à l'avance parce qu'effectivement, on limite l'effectif. On ne fait pas des sorties à 50 personnes, c'est pas très intéressant. Donc voilà, je vous encourage à y aller. On n'a pas du tout besoin d'être adhérent à la LPO. Au contraire, la LPO est très contente de faire découvrir à des gens qui ne sont pas de la LPO. Donc n'hésitez surtout pas.
Très bien, c'est noté. Merci à tous. Merci à Ingrid et sa classe, donc les CE1 de l'école des Buzardières. Merci et bravo pour l'ensemble de votre travail, de l'ensemble des ateliers que nous avons réalisés ensemble. Toutes les informations, les références qu'on a évoquées aujourd'hui avec Françoise Nissen seront à retrouver sur la page du podcast de l'émission, puisqu'il y a une page dédiée à cette émission. Les CE1 des Buzardières à la découverte de Saint-Herblain. C'était Julien à la technique. Merci à tous et vraiment, c'était un grand plaisir. Et Ingrid pour le mot de la fin.
Merci beaucoup encore une fois à Salima et Julien avec qui on a réalisé avec grand plaisir ces émissions culturelles très riches.
Merci beaucoup. Bye bye, bonne journée.